Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radicaux Libres dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radicaux Libres sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler cette semaine du ras-le-bol des personnels de l'hôpital du Mans, tant ils n'ont plus les moyens de faire correctement leur boulot. Quand on travaille dans la santé, dans le soin, ça devient difficile. De la même manière dans le social, les gens n'ont plus les moyens de faire leur boulot. Et là, ça rend un petit peu la vie compliquée pour les personnels, d'où ce qu'on leur demande de faire et puis la contradiction avec les moyens qu'on leur donne pour le faire. Avec le budget de l'État 2026, la destruction programmée du service public de la santé risque encore de s'accélérer. C'est la même chose pour l'éducation, c'est la même chose pour le social. Et je rappelle que les libéraux au pouvoir n'aiment pas trop ce qui ne rapporte pas. On aurait pu vous parler du retard à l'allumage quand il s'agit d'enlever des laits pour bébés dans les rayons des supermarchés. On se souviendra que la vie des vieux des EHPAD et des gamins des crèches ne pèse pas très lourd en face des rémunérations des actionnaires. Vous voyez, il y a des bouquins entiers écrits sur le sujet avec des procès qui sont faits par ceux qui sont accusés, mais ils sont déboutés. Je pense que ce n'est que mon avis que nous tenons les raisons profondes de ce rappel tardif. À l'occasion de cette affaire qui touche Nestlé, encore, Lactalis, oui, Danone, mais un tout petit peu Danone, un tout petit peu. Attention, ils l'ont dit un tout petit peu. On apprend que les laits pour bébés en poudre sont pleins de trucs qui ne sont pas du lait, comme de l'huile chinoise venue en bateau de l'autre bout du monde. Décidément, la relocalisation des productions devrait être une priorité de l'action de nos soi-disant représentants. Non mais ils s'en foutent, ça rapporte rien. Et dans le cadre du lait pour bébé, la relocalisation, c'est le sein de la mère. Ou d'une nourrice qui habite dans le coin. Hein. Mais allaiter un enfant est contraignant et contre-productif dans une société où le temps c'est de l'argent et où la réussite sociale est un totem. Si les femmes qui ont des enfants pouvaient avoir du temps pour nourrir leurs bambins, le libéralisme serait un mauvais souvenir. Oui, parce que ça entraîne... Oh là, il y a une cascade, il y a un effet domino là. Comment ça, donner du temps à des gens pour donner de l'amour et de la nourriture à des enfants? Mais ça veut dire qu'on remet tout en cause. Ce serait pas mal. Alors à la place, pour que maman puisse être réduite à une ressource humaine, l'industrie a créé du lait maternisé. Ce n'est en aucune manière du lait maternel. C'est vendu comme un équivalent. Et en plus, ça peut être toxique et développer des allergies. Mais ça rapporte aux actionnaires. Les priorités des libéraux sont littéralement mortelles. On aurait pu vous parler des tempêtes. En hiver, c'est normal. Mais à ce rythme-là, ça devient fatigant. Surtout pour les habitants des littoraux du nord-ouest, du sud-ouest, du sud-sud-ouest, de la Méditerranée. Tous les habitants des littoraux, en gros, quoi. Par exemple, après Goretti, les 8 et 9 janvier, voilà Ingrid. Et on oublie Harry qui a traversé plutôt le sud avec l'équivalent de 4 mois de précipitation en 3 jours, les 17, 18 et 19 janvier, il n'y a pas longtemps, sur le Languedoc-Roussillon, plein de « on n'a jamais vu ça » dans les reportages spectaculaires télévisés et radiophoniques. Et puis ça se décline des « on n'a jamais vu ça » dans toutes les langues, puisque les tempêtes en question ne s'arrêtent pas à la frontière du pays comme le nuage de Tchernobyl en 1986, mais balayent tout le continent. Et même l'Afrique du Nord. C'est clair, le climat part à volo. Mais crois-tu que les libéraux changent leur fusil d'épaule? C'est une fausse question. Non, ils réclament de la croissance économique et donc plus de production et plus de productivité et plus d'efficacité et plus de pognon, en gros. Pourquoi faire? Pour être les plus riches du cimetière. Pour produire quoi, au fait? Ce serait bien de se poser la question. Par exemple, je ne suis pas sûr d'avoir besoin d'une bagnole de 2 tonnes pour transporter mes 70 kilos sur mon lieu d'exploitation. Je suis même pas sûr d'avoir besoin d'un lieu d'exploitation. On aurait pu vous parler de l'enquête de Younes Abzouz, qui est journaliste de Mediapart, à propos de l'Arcom. L'Arcom qui est si coulante avec ses news pendant que l'extrême droite passe son temps à faire des procédures contre des médias locaux et alternatives. On vous recommande l'enquête en question. On se demande bien ce qui peut motiver tous les gens de l'Arcom à pas taper sur ces news. Peut-être l'air du temps, peut-être ne pas insulter l'avenir. Ces gens sont dangereux. À ce propos, Jean-Michel Aulas, candidat de droite à la mairie de Lyon, vient de perdre son procès en diffamation contre le média Rue 69 Lyon, à propos d'un article où il était révélé que l'ex-président de l'Olympique Lyonnais, devenu vice-président de la Fédération Française de Foot, ce monsieur Jean-Michel Aulas détient des parts dans une boîte via des montages financiers utilisant des paradis fiscaux. Il a été adoubé par les Républicains, Jean-Michel Aulas, mais il se dit pas de droite. Jean-Michel Aulas adoubé par les Républicains. Les Républicains, le parti des honnêtes gens de M. Retailleau. Il va falloir changer de slogan, là. On aurait pu parler du budget du pays qui passe à coups de 49.3 pour continuer à enrichir les riches et appauvrir les pauvres. Ah, j'entends le PS dans mon oreillette maison. Plus de 3 millions de foyers vont voir leur prime d'activité augmenter de 50€ par mois. Super. Donc le PS, c'est ça maintenant. La charité à la place de la solidarité. Il est né en 1971, le PS. Franchement, il a mal vieilli. On aurait pu vous parler de ce policier condamné à 7 ans de prison pour avoir assassiné un homme noir à Nantes en 2018 lors d'un contrôle routier. Ouais, le coup est parti tout seul. Il nettoyait son arme sur un contrôle routier. Mais quelle idée ! Eh ben oui, la police tue en France. La dernière victime en date s'appelle El Hassen Diarra. Les vidéos de son arrestation sont insoutenables et accusatrices. Mais un certain Laurent Nunez, qui est le chef des flics et des pendeurs, n'y voit rien à redire. Non, non, non. Les policiers impliqués dans la mort de El Hassen Diarra vont pouvoir donc continuer à défendre les valeurs républicaines. On aurait pu vous parler de la nouvelle offensive de l'armée syrienne soutenue par les milices djihadistes financées par les Turcs contre le Rojava. C'est moche. C'est moche, moche, moche. Ouais, mais pour l'instant, on s'occupe plutôt des délires d'un certain Donald Trump. Pour en savoir plus à propos du Rojava, à propos de ce qui se passe actuellement, kurdistan-o-féminin.fr. Par contre, on ne peut plus parler du chauffage dans les écoles primaires allemandes. En particulier dans les écoles primaires des quartiers pauvres. Non, ça faut plus ça. Parce qu'il y en a qui localement pètent des plombs. Ah, en privé bien sûr, mais ils pètent des plombs. Alors on va pas en parler, des problèmes de chauffage dans les écoles primaires. En particulier dans les écoles primaires des quartiers pauvres. Voilà, ça, ben, ça n'a pas été fait. Non, parce que finalement on a préféré terminer de vous parler des municipales à Angers.
Je serai d'une détermination absolue. Et je ne céderai rien.
Tout ça n'empêche pas vivre là.
Que la commune n'est pas morte.
Que la commune n'est pas morte.
Alors, on vous rappelle que le site lesjours.fr fait le boulot pour recenser les candidats d'extrême droite qui ont propagé des idées racistes, sexistes, ont dans leur entourage des fascistes purs et durs. Le dernier article en date sur les 30 députés RN candidats aux législatives, 26 ont, je cite, des casseroles. Ici, au Mans, la liste de droite est soutenue par Horizon, dont le président est Édouard Philippe, qui s'est prononcé sur la colonisation en disant que c'était pas pire, hein, et qui reprend à son compte le concept de racisme anti-blanc. Un concept développé par l'extrême droite, notamment la griffe. Ah, la griffe. Eh bien, nous, l'Horizon, là, dans la représentation locale, au niveau régional, s'appelle Christelle Morancet, qui trouve Elon Musk génial. Elle l'a dit à Ouest France l'année dernière. Elle soutient le Puy du Fou et les Nuits du Bien Commun de Stérin avec l'argent des Ligériens, mais par contre, elle coupe les vivres au planning familial. On voit un petit peu l'orientation. La liste donc de droite allemand est soutenue par les Républicains, dont la liste des accointances avec les partis d'extrême droite et surtout leurs idées seraient beaucoup trop longues pour la faire là maintenant. Donc en France, voter à droite revient de plus en plus à voter pour les idées d'extrême droite, qu'on se le dise. Et même si les militants vous disent « Ah mais non, mais nous c'est local !» Eh ben arrête avec ton parti alors. Cette semaine au Mans, les sections locales de Place Publique et du Parti Radical de Gauche, qui ne représentent pas grand-chose, il faut se le dire, apportent leur soutien à Stéphane Le Foll. Et on n'a toujours pas de tête de liste pour la liste regroupant les écologistes, des dissidents du PS de citoyens écologistes et solidaires, du PCF et le collectif Fraternellement. Suspense. Un suspense tout relatif quand même. De fait, rappelons que la tête de liste, ben, c'est pas le maire ou la mairesse en cas de victoire, non, pas obligatoirement, et que le maire ou la mairesse n'est que l'incarnation d'une politique. Ce n'est pas le seigneur de l'ancien régime à qui il faut faire passer des doléances pour que dans un geste d'une magnanimité exemplaire, il vous donne un coup de pouce. Non, ça s'appelle de la démagogie doublé d'une certaine corruption. Décidément, la démocratie, donc le pouvoir d'agir et de décider, exercé par la population, se marie très très mal avec la démocratie représentative et surtout avec sa personnification outrancière du pouvoir. Alors à Angers, petit rappel, en octobre dernier, nous avons rencontré Noam Léandri, l'un des cofondateurs de Angers Coopérative, qui est une coopérative politique. Mais qu'est-ce que c'est ? Eh bien, j'emprunte les mots de Monsieur Léandri tirés du petit bouquin intitulé Le pouvoir d'agir, qu'il a fait publier aux éditions Ozone en 2025. Coopérative politique, une idée neuve. Il est temps de reprendre le pouvoir et cela suppose de changer les règles du jeu, de sortir du tête-à-tête stérile entre professionnels de la politique et commentateurs de plateau, de recréer des espaces, des outils, des structures où chacun puisse avoir sa place, pas seulement pour s'exprimer, mais pour décider. C'est là que j'en appelle à une innovation démocratique profonde, la coopérative politique. Non pas un nouveau parti, pas un gadget participatif, une vraie structure d'action collective, où les citoyens, quelle que soit leur origine, leur âge, leur métier, peuvent contribuer à l'élaboration des politiques publiques. Pas comme figurants, comme co-bâtisseurs. La coopérative est à l'origine une organisation économique alternative et une utopie émancipatrice. D'abord interdite par la Révolution, les associations ouvrières sont progressivement reconnues à partir de la Troisième République. Bien que les coopératives soient des organisations à vocation économique, leur création et leur fonctionnement intègrent des enjeux sociaux et politiques. Dès lors, il n'est pas rare que les coopératives mènent des actions militantes parce qu'elles se fondent sur les valeurs d'entraide, de démocratie, d'égalité et de solidarité. Ces modèles de gestion coopératif constitue une source d'inspiration pour une organisation politique. Cette démocratie coopérative, j'en ai livré une présentation complète dans une note parue à la Fondation Jean Jaurès en septembre 2024. La coopérative politique, c'est le contraire de la verticalité. C'est le refus du rapport de force, c'est l'égalité réelle dans la décision selon le principe « un homme, une voix ». Et c'est surtout l'antidote à la fatigue démocratique. Parce que lorsque l'on agit ensemble, lorsque l'on débat vraiment, lorsque l'on se sent utile, alors le goût de la politique revient. Pas la politique politicienne, non, la vraie, celle du forum, de l'agora, du collectif. Et ben voilà, pour l'entendre de vive voix, monsieur Noam Léandri, vous pouvez aussi écouter ou réécouter l'émission du 10 janvier où on parlait de cette coopérative politique. Et dans celle du 17, nous avons appris comment fonctionne cette coopérative et comment elle avait donné la parole aux habitants. Puisque le but de la démocratie n'est pas de produire du contenu à distribuer sur les marchés ou dans les réseaux sociaux, mais bien de mettre en œuvre la volonté des populations. Volonté qu'il faut donc connaître, et c'est pourquoi il faut la recueillir. Depuis une primaire, en juin 2025, Angers Coopérative est intégrée à une liste de rassemblements intitulée « Demain, Angers », avec d'autres collectifs citoyens et surtout des partis politiques. Comment s'est faite l'intégration? Nous avons posé la question à Noam Léandri. Vous participez donc à Demain Angers, qui est donc une coalition de partis, d'associations qui représentent les citoyens. Là, les gens arrivent avec leur casquette, c'est-à-dire que je fais partie d'un parti, j'arrive avec ma casquette du parti et je représente le parti.
Oui, alors, Angers Coopérative, lorsqu'elle s'est créée, son objectif en septembre 2024 était d'aboutir à un projet citoyen, une vision de la ville. Et on n'avait pas dit qu'on allait forcément créer une liste. Nous, ce qu'on voulait, c'était que ce projet puisse être repris par les partis politiques ou les candidats aux élections. Donc on a fait le choix de participer à une primaire organisée par les partis politiques qui visait à départager qui serait la tête de liste pour une alternance d'union à Angers, partant du postulat que l'union fait la force. Bon, moi j'ai toujours dit que ça suffisait pas, il faut aussi avoir une bonne tête de liste, mais et un bon programme. Et donc, la proposition des partis politiques, c'est de pas avoir de programme, et que ce soit pas un débat d'idées pour la primaire, mais que ce soit juste un débat d'incarnation, pour savoir qui incarnerait le plus cette union entre les partis et tous ceux qui voudraient les rejoindre, y compris des associations citoyennes, comme c'est le cas d'Angers Coopérative. La primaire qui a débouché sur la désignation du candidat écolo, on a maintenant le programme qui est encore à construire, on est en plein dedans et avec beaucoup de retard, alors que la coopérative, elle, avait déjà fait le boulot. Donc, j'espère que ça sera bien repris, en tout cas on s'en assure. Et on est encore sur la constitution de la liste, parce qu'on a juste désigné le premier, mais pas les 58 autres noms, parce qu'il y a 59 personnes à mettre sur une liste, donc aux élections municipales à Angers. Donc voilà, on est encore dans une période assez critique, parce que quand on n'a pas de projet, ni de liste, ni de candidat, ça pose problème.
Depuis octobre 2025, la liste a été déterminée. Elle a été annoncée cette semaine. 59 noms tirés d'une dizaine de partis et 3 collectifs citoyens, dont Angers Coopérative. La liste s'enorgueillit d'avoir 50% de personnes qui ne sont pas membres des partis politiques. Et c'est le cas. Mais petit exercice. Dans les 10 premiers, on trouve 7 membres de partis. Dans les 10 derniers, 4. Si la liste est élue avec 50,1%, vous voyez, c'est vraiment tout juste. Eh bien, elle aura donc la prime majoritaire, puisque dans les élections municipales, la liste qui arrive en tête a au moins 50% des sièges, et ensuite, le reste, les autres 50%, se partagent proportionnellement aux listes. Les 25 premiers sont élus, hein, plus donc 50,1% du reste de la liste, soit les 12 suivants. On arrive alors, pour la liste qui arrive en tête, sur 59 sièges, 37 élus. Et bien parmi ces 37 élus, il y en a 22 qui font partie de partis politiques. Ça veut dire qu'il y a une proportion beaucoup plus importante que de gens qui font partie des collectifs citoyens. À propos de la place des partis dans les listes citoyennes, on vous recommande le site d'Action Commune et sa boussole démocratique. Pour ce faire, vous allez sur Action Commune au pluriel, Action au pluriel, Commune au pluriel, .org, Action Commune au pluriel, .org. Vous allez dans Ressources et en 4 pages, un petit test permet d'en savoir plus sur le caractère démocratique de la liste, c'est-à-dire quelles sont les capacités de décision et d'action des populations par rapport à la liste proposée. Revenons à la primaire. Quel fut le moyen de désigner celui ou celle qui aura sa bobine sur les affiches? Noam Léandri nous en dit plus.
Le moyen de déterminer la tête de liste, c'était le jugement majoritaire. Qu'est-ce que c'est que ça, le jugement majoritaire?
Le jugement majoritaire, c'est ce qui avait fonctionné dans la primaire populaire lors des élections présidentielles de 2022, qui avait mis Christiane Taubira en tête de cette primaire populaire, mais qui arrivait trop tard parce que les autres candidats étaient déjà déclarés et les campagnes étaient déjà lancées. Comment ça fonctionnait? C'est que vous devez mettre une note de 1 à 6 à tous les candidats. Il y avait 5 candidats et donc vous pouviez mettre la meilleure note à tous les candidats ou la pire note à tous les candidats. À la fin, on regarde celui qui a la meilleure note médiane, pas moyenne, médiane. Typiquement, le candidat écolo avait le plus de pas de mention excellent ni très bien, mais juste bien. Il avait le plus de mention bien. Qu'on nous avait annoncé à nous candidats en avant-première les résultats avant qu'on puisse l'annoncer publiquement. Quand j'ai vu la tête de plusieurs de mes camarades, mais néanmoins concurrents, je pense que certains ne s'attendaient pas forcément à ce résultat. J'ai vu des têtes se décomposer ou devenir rouge écarlate. Donc bref, je pense que ça en a surpris plus d'un. Et donc effectivement, ça ne permet pas de se projeter véritablement parce que là, c'est en un tour et on n'a pas ces... moi, personnellement, je trouve que le système classique en deux tours permet quand même de nouer davantage des compromis dans l'entre-deux-tours, de discuter, de dire voilà, avec qui on veut faire des alliances, avec qui on se sent le plus proche. Enfin, voilà, ça permet quand même de construire. Alors que là, c'est tombé un peu à plat. Puis, l'autre souci qu'on a eu, c'est que c'est organisé au mois de juin et les vacances d'été sont passées par là et ça a complètement stoppé finalement la campagne. Alors ça aurait pu être un élan. Si on l'avait fait en septembre, ça aurait été un énorme élan là, pour les élections municipales. Et là, on a réuni effectivement un millier de personnes pour voter à la primaire. Ça nous a pas mis dans une bonne dynamique à cause de ce calendrier, quoi. Mais qui nous a été imposé. Enfin, moi, personnellement, si j'avais pu, j'aurais fait autrement. Mais voilà, en tout cas, les partis avaient décidé de ça entre eux. Et donc, on a respecté le calendrier qui nous était fixé, les règles du jeu qui étaient fixées, avec lesquelles on n'était pas d'accord non plus, de ne pas avoir de débat d'idées. Enfin, je pense qu'une primaire, ça devrait départager des gens non pas parce que c'est un concours de Miss France, c'est parce que voilà, on porte peut-être un projet plutôt qu'un autre. Et donc, j'aurais préféré que ça soit comme ça. Mais comment être contre une primaire? C'est-à-dire que c'était un peu le problème. C'est, on dit y a une primaire pour départager. Il y a eu beaucoup de débats au sein de la coopérative, savoir est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. On n'est pas d'accord avec le format de la primaire, le calendrier, plein de choses. Mais en même temps, comment être contre ça? Est-ce qu'on veut être les diviseurs? Est-ce qu'on veut vraiment faire changer les choses? Ou est-ce qu'on pense qu'on est les meilleurs tout seul dans notre coin? C'est toujours ça un peu le conflit d'intérêts. Et donc on a voulu effectivement l'union, même si on pensait que ce n'était pas une bonne manière de s'y prendre.
Il est vrai que là, ça devenait compliqué. Vous ameniez la désunion si vous disiez « Non, nous, on continue dans notre coin tout seul et on ne participe pas à votre demain Angers. »
C'était une hypothèse, c'était même la principale hypothèse. Et donc, pour départager, la démocratie, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Donc, on en a procédé à un vote interne pour savoir si on y allait ou pas. La grande majorité, puisque nous, on a décidé de la règle en cas de vote, il faut qu'il y ait une majorité des deux tiers. C'est une vote à majorité qualifiée, pas simplement la majorité simple de la moitié des voix. Et donc, plus des deux tiers des adhérents, sympathisants d'Angers Coopérative, puisque encore une fois, on est ouvert à tout le monde, tous les citoyens peuvent participer, on leur demande pas, il n'y a pas d'adhésion, il n'y a pas de carte. Voilà, on est libre de participer en tant qu'habitant. La très grande majorité a considéré qu'il fallait y participer, parce que, encore une fois, comment être contre une primaire? Et donc on a acté le fait d'y aller vraiment quelques jours avant le début de la campagne de cette primaire, tout début juin. Et donc on s'est lancé, on a joué le jeu. On sentait déjà que les partis politiques savent bien mobiliser des personnes pour pouvoir participer à des votes. Et donc c'était le cas effectivement dans les primaires. Donc on n'a pas réussi à mobiliser davantage. Mais au global, on a eu un millier de participants. Alors qu'au début, on pensait qu'il n'y aurait que quelques centaines d'adhérents des partis qui viendraient. Mais finalement, on a réussi à mobiliser plus largement. Et on a mobilisé non pas en disant voter pour un tel ou tel autre. Mais venez participer à la primaire. C'était vraiment dans un objectif collectif de participation à la primaire. On n'a pas mobilisé des gens qui venaient voter que pour moi ou que pour d'autres. Donc c'était vraiment l'idée que plus ça serait populaire cette primaire et plus ça allait apporter de la dynamique et de l'envie de changement. Donc on a effectivement un millier de personnes qui se sont déplacées, donc c'est une bonne nouvelle. On regrette, je le dis publiquement, hein, qu'il n'y avait qu'un seul bureau de vote en plein centre-ville et pas dans les différents quartiers, qui a pu conduire à des incidents. D'ailleurs, quand des personnes venues d'autres quartiers qui n'avaient pas exactement les mêmes codes sont venues, et ça y est, ça a pu avoir quelques tensions, etc. Mais bon, en tout cas, voilà, on a réussi à les dépasser, j'espère. Et donc maintenant, on fait cette alliance ensemble avec un attelage qui n'est pas forcément toujours évident à gérer.
Pas évident à gérer, oui. Un attelage de 8 parties, hein, puisque d'autres ont rejoint demain Angers, il n'y a pas si longtemps, debout par exemple, de M. Ruffin. Voilà, donc à propos du jugement majoritaire, si vous voulez en savoir plus, il existe une page Wikipédia et puis plein de petites vidéos sur mieuxvoter.fr par exemple. En ce qui concerne la gestion de ces différents partis, puisque chacun arrive avec son agenda, eh bien, il y a eu un conflit avec Angers en commun. Angers en commun, c'est un collectif citoyen, mais très proche de l'après, des anciens de LFI, après la querelle qui a vu Alexis Corbière, Ruffin, tiens, François Ruffin, Clémentine Autain, entre autres, partir du mouvement ou se faire virer. Allez, Angers en commun ne fait plus partie de Demain Angers. Bah, ils n'étaient pas tout à fait contents de la place qui leur était donnée dans la liste, et ils considèrent que Demain Angers est trop autoritaire et qu'elle ne suit pas les recommandations des instances comme les différentes commissions, comme la commission qui devait normalement gérer une liste. D'autres parties prenantes de Demain Angers insistent sur le fait que les exigences de Angers en commun sur les places de liste, sur les places dans la liste, etc., que ce collectif avait des exigences, mais qu'il était, je cite, plutôt une grenouille qui s'est crue aussi grosse qu'un bœuf. Alors voilà, on se fâche. On se fâche pourquoi ? On se fâche pour des querelles d'appareil. On voit là les limites de l'agrégation de partis politiques qui ont des agendas propres au local comme au national. Pour en savoir plus sur le sujet, on vous recommande de lire le chapitre intitulé « Le casse-tête des partis politiques » tiré de l'excellent travail de la coopération. Encore une. Fréquence commune. Une coopérative fréquence commune que l'on trouve sur les internets à l'adresse fréquencecommune.org, tout au singulier pour fréquence commune. Cette coopérative, dont on vous a déjà parlé et que nous présenterons bientôt plus avant avec l'interview de l'un de ses membres, aide les listes citoyennes à rester démocratiques. Et c'est pas facile avec des partis. Et dans le recueil de tips, ouais, j'ai appris le mot il n'y a pas longtemps, alors je l'utilise. Et le recueil de tips et d'expériences intitulé « Prendre le pouvoir pour le partager », vous pouvez le télécharger sur le site fréquencecommune.org, ce recueil. Eh bien, prendre le pouvoir et pour le partager comporte un chapitre à partir de la page 215 qui justement montre les problèmes que peuvent donner les partis quand ils s'installent dans des listes dites citoyennes et qui deviennent tout à coup des listes de partis. Mais au fait, tout le travail de production d'un programme par Angers coopérative sur la base de la récolte de paroles d'habitants, que va-t-il devenir dans Demain Angers ? On a posé la question à Noam Léandri.
Vous aviez déjà un programme. À votre avis, que vont devenir les différentes propositions que vous vouliez porter seul ?
Ce travail qu'on a produit, il est reconnu. Hein. C'est-à-dire, tous les membres de Demain Angers nous remercient régulièrement et ils disent que c'est vraiment un gros travail qu'on a fait. Ils n'arrivent pas à faire la même chose. C'est ça qui est assez curieux. C'est-à-dire que nous, en faisant venir des gens qu'on ne connaissait pas, ouverts à tout le monde, on arrive à davantage bosser que des personnes qui sont censées être organisées pour ça, avoir de la réflexion, être élu sortant, avoir... c'est assez curieux, mais bon, bref. Donc, on a réussi à produire des choses. Et aujourd'hui, dans le projet qui est en train de se cristalliser pour Demain Angers, mais qui avance, je trouve, un peu trop lentement, à mon goût, mais bon, peu importe, les propositions qu'on a faites sont toutes reprises dans une liste de l'ensemble des propositions de tous les partenaires. Donc à la fois le PS avait fait des propositions qui sont en fait celles qu'ils avaient fait aux dernières élections municipales en 2020, donc voilà, ils les remettent. Les écolos avaient fait pareil en 2020, donc ils les remettent. Voilà, donc tout le monde remet ses propositions de 2020 et les nôtres sont mises dans ce pot commun qui doit nourrir un projet. Et donc là il y a un ordonnancement, une priorisation des propositions. Nous, on avait déjà fait. Tête de liste étant écolo, forcément il veut donner une connotation plus écolo à son programme. Nous, je veux dire, on a plein de mesures en matière d'environnement, donc j'ai pas de problème avec ça. Après, voilà, il faut aussi que ce soit des mesures qui soient pertinentes. Et si on veut avoir 5 grandes ou 10 grandes propositions, nous, ce qu'on avait fait, on en avait sorti une vingtaine qu'on voulait faire choisir après par les habitants. Mais du coup, comme on est pris dans Demain Angers, on ne peut pas avoir cette action militante de terrain, puisque ça donnerait l'impression qu'on veut faire quelque chose dans notre coin, alors que l'idée, c'est de faire du collectif. Bon, bref. Mais on trouve qu'effectivement, on manque peut-être un peu plus d'interaction avec les habitants, les citoyens. Nous, on était visibles, on était sur le terrain. Aujourd'hui, ça donne vraiment l'impression d'être une logique d'appareil, de discussion entre appareils. Donc, ça ne donne pas cette même dynamique. Bon. On est présent dans tous les groupes de travail, dans tous les groupes de réflexion, mais il y a une forme d'usure parce qu'on a fait ça pendant un an, de repartir à zéro avec des gens qui redécouvrent le sujet, qui pensent avoir trouvé la pierre philosophale à nouveau, de la meilleure idée qui vienne. Bon, on refait, on rejoue le jeu, mais c'est vrai que c'est usant, c'est fatigant pour beaucoup de militants.
Bon, on vous dit tout, nous étions dans un café-librairie angevin et le garçon limonadier derrière le comptoir avait besoin de faire baisser la pression. C'est le cas de le dire. On a donc attendu, on a repris. Pour ceux qui penseraient qu'il y a une redite, en effet, il y a une redite.
À propos du programme, il se divise en quatre parties. Une ville qui protège, une ville à l'écoute des besoins, une ville pour demain et une ville vivante. Vous aviez donc un certain nombre de projets qui étaient prévus. Est-ce que vous pensez qu'ils vont être repris en partie par Demain Angers ?
Alors oui, on pense bien et on espère et on fait en sorte que Demain Angers, donc la nouvelle alliance avec les partis politiques, reprenne ce projet parce qu'on y tient, on y a travaillé, on pense qu'il est légitime. Après, on sait qu'il y a un certain nombre de points sur lesquels il peut y avoir peut-être pas forcément un accord, un compromis sera complètement possible. Je pense particulièrement à la gratuité des transports en commun, sur lequel on sait que les écologistes sont historiquement opposés à la gratuité parce qu'ils estiment que ça grève la capacité à produire de nouvelles infrastructures de transport en commun. L'argent, ça se trouve dès lors qu'on fait des arbitrages. Nous, il y avait quand même trois angles très saillants. On voulait une ville à hauteur d'enfant pour aussi la sécurité routière, pour adapter au vieillissement aussi, parce que quand une ville elle est adaptée à des enfants, elle est aussi adaptée à des personnes peut-être plus âgées ou dépendantes. Donc voilà, je pensais que ça faisait du sens. La gratuité des transports aussi, c'était une manière de montrer qu'il n'y a pas que on ne va pas que pénaliser les automobilistes, mais on veut aussi proposer des solutions alternatives. Et puis enfin, il y a les questions de la démocratie qui nous est chère, évidemment, et donc on voulait que les quartiers, quels qu'ils soient, puissent avoir plus de poids dans la prise de décision sur des budgets qui soient participatifs par quartier, par un rôle plus important qui soit donné aux citoyens, sur des référendums, d'initiatives populaires, par exemple, par quartier. Enfin, voilà, on avait plein de propositions en termes de démocratie. Donc ça, ces trois axes-là qui nous sont chers, on aimerait qu'ils puissent être repris, évidemment.
C'est un vœu pieux peut-être, parce que le programme de Demain Angers, il manque encore. Mais c'est en cours. Alors avec quelles tractations, nous ne savons pas, on n'est pas dans l'arrière-cuisine. Alors que dans une liste citoyenne, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de reprendre les paroles d'habitants, les synthétiser et les voter ou pas en Assemblée Générale. En gros, il suffit d'être démocrate. Et comme quoi la démocratie représentative, c'est vraiment tout autre chose. Un programme sur les listes des partis, on va copier-coller pas mal des grands thèmes nationaux, avec des déclinaisons locales. Même si les distributeurs de tracts que l'on croise sur les marchés s'en défendent, le recueil de la parole des habitants, pour les partis, c'est accessoire. Parce que le membre du parti sait ce que veut le Pékin moyen. Il veut la même chose que lui. Ah ben voilà, c'est aussi tout simple, mais c'est peut-être moins vrai. Redonnons pour une dernière fois la parole à Noam Léandri pour conclure.
Moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand même qu'il y avait un engouement, une envie de participer, de donner son avis. Chaque fois qu'on pose la question aux gens de qu'est-ce qu'ils aimeraient, ils ont forcément un avis. Dès qu'on pose une question un peu plus précise, alors et comment ça se passe à l'école, et comment ça se passe dans les transports, les personnes sont toujours ravies et heureuses de pouvoir donner leur avis. Avoir une promesse aussi de l'usage qu'on va en faire, c'est-à-dire que ça peut être jeté dans une poubelle, c'est pas juste au moment des élections on vient les voir en disant qu'est-ce que vous voudriez, puis après on s'assoit dessus et on oublie d'aller les voir. Il faut qu'il y ait une promesse derrière que ce qu'ils vont nous dire, on va l'utiliser et à quoi. Donc je pense qu'on a respecté ce deal là, nous on avait dit aux personnes qu'on allait produire un projet à partir de leur retour terrain, on l'a fait, c'était une promesse qu'on a tenue. Et donc je pense que ça peut redonner espoir dans la politique, dans la vie politique, en montrant qu'il y a d'autres voies qui sont possibles que les partis traditionnels. Donc l'expérience que j'en tire pour l'instant, et c'est pas terminé, c'est que dès lors qu'on parle aux gens, qu'on a envie de les écouter, qu'on va en tenir compte, et ben ça peut fonctionner, ça peut donner de l'envie, de la dynamique. Si on reste dans des schémas traditionnels où un an avant les élections, on commence à faire comme si, ça marche pas.
Bon bah clairement, la démocratie a besoin de citoyens. Allez, au revoir.